Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du rendez-vous des audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Étienne. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
De rien.
Alors, tu as créé Ecobé ou Ecobouteille?
Ça s'appelle Ecob, la gourde recyclée, et on a appelé ça Ecobouteille parce que Ecob sur Instagram, ça passait pas, il fallait plus que 4 lettres.
Ah voilà, parce que moi je me disais, mais déjà je prononce très mal. Donc tu as créé avec ton frère?
Ouais, en fait, mon petit frère est designer. On avait la volonté de produire quelque chose et on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. La bouteille et la gourde semblaient être un truc qui était hyper intéressant et on a monté ça ensemble.
T'as un profil un peu différent des entrepreneurs que j'ai déjà eu dans mon podcast parce que toi, tu te lances en fait. T'es au début, enfin, pas à l'échelle du design et du projet parce que, à mes yeux, t'as passé beaucoup de steps. Mais genre, voilà, t'as pas encore le site internet, c'est pas encore commercialisé vraiment comme une entreprise voilà, standard. En fait, on est à où du projet? Après cette campagne, il se passera quoi?
Alors, nous, en fait, la grande différence avec une majorité de marques de gourdes, c'est qu'on n'est pas des distributeurs, mais des fabricants de gourdes. Donc, ça nous a pris un an de développer un design, de faire fabriquer des moules, de passer toutes les normes et de trouver des partenaires avec qui on pouvait produire ces bouteilles. Du coup, on a lancé une campagne Ulule pour précommander et commencer à récolter des fonds et financer en partie la production, qui est de 15 000 bouteilles minimum qu'on va avoir fin août. Pareil pour les housses qu'on fait produire avec un atelier français et les bouchons qu'on achète par contre dans une usine belge. Donc là, la prochaine étape après notre campagne, c'est de s'assurer que tout arrive conforme à ce qu'on souhaite, de préparer les produits, de recommencer à rencontrer des distributeurs physiques avec qui on va travailler et de finaliser le site internet pour un lancement officiel de la marque en septembre.
D'accord. Et là, vous êtes arrivé aux 15 000 ou c'est pour fin août? C'est ça, l'objectif, les 15 000 bouteilles, c'est fin août?
Alors, en fait, les 15 000 bouteilles, ça va être la production, donc notre stock, pour environ un an. Pour l'instant, on en a vendu un peu plus de 330 en un mois, ce qui est vraiment pas mal en précommande. Et après, l'objectif, c'est de vendre les 15 000 bouteilles qu'on aura en stock sur l'année.
D'accord. Ouais, ça, mais le but, c'est que c'est ouais, la croissance, quoi. Si 300, 600...
Voilà, c'est ça.
C'est le but.
Il va falloir qu'on vende par différents canaux et on verra quoi.
Donc là, c'était plus via Insta et Ulule?
Ouais, là pour l'instant, on a vraiment fait que de la croissance organique où on a créé des contenus de façon assez simple pour intéresser les gens, voir ce qu'ils pensaient du produit. Bien sûr, on a essayé de faire quelque chose le plus responsable possible, aussi bien pour votre santé que pour la planète. Et on veut voir un peu les réactions. On attend aujourd'hui que les gens l'aient sur eux, la gourde, pour pouvoir la montrer. Et je pense que ça sera vecteur de vente, le fait de les avoir un peu partout dispersés en France.
C'est qui a eu l'idée, en premier?
De la bouteille?
Ouais.
Alors, le parcours est assez spécial. C'est moi qui ai eu l'idée, j'ai appelé mon frère, on a toujours voulu travailler ensemble, c'est mon petit frère. Lui, il est très 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 bon techniquement, créativement, c'est un crack. Et moi, j'étais plus sur l'aspect commercial, distribution, logistique, gestion de projet. Et très honnêtement, à la base, on s'est dit, voilà, on cherchait une gourde, on n'a pas trouvé quelque chose qui répondait à toutes nos valeurs, à tout ce qu'on souhaitait. Et on s'est dit, bah, c'est le moment de se lancer. On va tenter cette aventure, monter un projet, voir comment ça marche. Et moi, je l'ai appelé. Et lui, dans la demi-seconde, il était super chaud, quoi.
Donc, en fait, toi, tu as décidé de répondre à un de tes problèmes clients.
Ouais, alors en fait, j'avais une gourde en inox. J'étais pas super satisfait de la qualité puisque je retrouvais un goût un peu métallique dans l'eau. Et du coup, avec mon petit frère, on s'est dit, ouais, j'aimerais bien faire produire quelque chose. Je trouve le principe de la gourde cool. Il en existe pas des tonnes. Enfin, c'est ce que je pensais. Et du coup, let's go. On s'intéresse au sujet et on va commencer à travailler là-dessus.
Et en fait, il y en a plein.
En fait, des gourdes, t'en as plein, différentes catégories. En France aujourd'hui, les leaders, ça va être Cheese Bottle et Quetch, qui sont des bons produits, je pense, mais qui ne correspondaient pas aux valeurs qu'on avait. Alors, il y a Gobilab aussi qui font du made in France, mais c'est du plastique, donc forcément, ça me plaisait moins. Et du coup, voilà, on a cherché les vrais leaders, les grosses marques, il n'y en a pas tellement. Mais après, si tu cherches sur Amazon, tu tapes gourde, tu verras que tu trouves des milliers de références, quoi.
Ouais, mais c'est peut-être des cours très standards sans valeur.
Ouais,
Avec un design.
en général, c'est ça, c'est des gourdes qui vont pas être qui vont pas avoir beaucoup de valeur ajoutée, qui vont être produites pas très cher, généralement en Chine. Après, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que la plupart des grosses marques n'étaient que des distributeurs. Ils achètent des modèles à des industriels chinois pour les revendre en mettant soit leur marque dessus, soit en la repeignant. C'est ce que fait Quetch, Cheese Bottle, Gazpacho. Donc c'est un système assez intéressant parce qu'ils proposent une solution quand même bien meilleure que celle du plastique à usage unique. Mais pour nous, ça ne nous suffisait pas. On voulait vraiment proposer quelque chose de responsable de A à Z et là où on pouvait contrôler la chaîne de production de A à Z.
Eux, ils achètent là-bas, c'est ça?
Oui, eux, ils achètent des modèles
En Chine.
aux industriels chinois et c'est pour ça que vous pouvez retrouver les mêmes bouteilles sur différentes marques. Aujourd'hui, il y en a plein qui se lancent et qui apposent juste leur marque sur un modèle. Il y a zéro recherche en termes de design et d'ergonomie au préalable. Après, ils vont apporter leur patte artistique, leur couleur, leur identité visuelle qui est plutôt cool, mais ils sont pas allés chercher aussi loin et ils prennent un peu moins de risques. Ils n'ont pas de stock, ils n'ont pas de moule à payer, ils ont rien de tout ça. Eux, ils se concentrent sur la distribution, là où ils sont très bons, et ils laissent les industriels produire parce que c'est aussi leur métier, quoi.
Bien sûr qu'après, au niveau de leur coût, eux, ils arrivent à avoir quelque chose de très minime parce que je pense que toi, investir dans le moule, etc., avoir des commandes à plus petite échelle qu'eux qui doivent en faire des milliers, bah, faut quand même avoir le courage de se dire, je vais investir un bon chèque.
Ouais, c'est clair qu'au début, on se dit tous les industriels qu'on a pu rencontrer avec qui on souhaitait travailler pour produire notre bouteille, ils nous ont dit arrêtez tout les gars et achetez un modèle déjà existant, un moule existant sur lequel vous allez apposer votre marque. Nous, très clairement, avec mon petit frère, on s'est dit ça vaut pas le coup si on n'est pas là pour créer notre bouteille, notre produit. On s'en fout, ça nous intéresse pas du tout. Donc, on a quand même persévéré là-dedans. Forcément, on a des coûts de production qui sont hyper importants, surtout des investissements de base. Mais in fine, lorsque tu produis toi-même ta bouteille, eh ben, elle te revient beaucoup moins cher sur le long terme que lorsque tu l'achètes, ce qui est normal parce qu'il y a un intermédiaire qu'on supprime.
Oui, donc tu retombes quand même sur tes pas au final.
Oui, j'espère en tout cas qu'on retombera sur nos pieds et surtout que la plus-value et ce qu'on apporte à cette bouteille va séduire les gens. C'est ça qui m'intéresse le plus, quoi.
Et c'est quoi pour toi la plus-value que vous apportez alors?
Bah, déjà, ce qui est complètement fou, c'est qu'on est les premiers à créer une gourde recyclée, en verre recyclé, chose qu'on sait faire depuis des centaines d'années. Mais aujourd'hui, le marketing du monde de l'agroalimentaire, il dicte des règles assez précises sur les contenants d'eau. Ils doivent être transparents pour donner une image toujours plus qualitative de l'eau. Ça marche pour les gourdes, pour les bouteilles en plastique, pour à peu près tout, sur de l'eau minérale en général. Nous, on s'est dit que c'est totalement bête de sacrifier du bon sens, de l'écologie au profit de marketing qui vous vend une fausse image. Alors, dès qu'on a découvert qu'on pouvait passer au-delà des 20-30% de verre recyclé, mais que ça impliquait une couleur différente, on a sauté sur l'occasion parce qu'on trouvait ça de un trop stylé. Ça donnait un côté un peu authentique. Et en plus de ça, on a une démarche encore plus responsable. Donc, moi, ça me va à 100%, quoi.
En plus, moi, je trouve que le verre utilisé, il est très beau.
Ouais.
J'adore la couleur. Ça change. Parce que en transparent, ça ne va pas taper autant dans l'œil.
Ouais, je suis complètement d'accord, ça fait beaucoup plus banal. Alors pour certaines personnes, on a eu vraiment des retours le projet est cool, mais le vert, la couleur, ça me dérange, c'est trop opaque, j'ai l'impression que c'est une fiole de médicaments. Donc voilà, ça peut pas plaire à tout le monde, mais on a eu plein de retours ultra positifs, des gens qui nous disaient franchement c'est trop stylé, ça rend grave bien avec le tissu de liège. Donc voilà, nous on croit en ce qu'on fait et dans tous les cas on ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde, mais je pense qu'on a trouvé une cible intéressée par ce projet.
C'est plutôt quoi comme cible? Tu sais
Alors
déjà ou pas? Enfin,
aujourd'hui,
c'est dur maintenant de savoir.
notre cible de base, ça va être les personnes qui souhaitent optimiser leur santé comme celui de la planète. C'est-à-dire que pour nous, une gourde, elle ne doit pas contenir autre chose que de l'eau. Parce qu'on doit boire 1 litre pour 23 kilos par 24 heures, ce qui fait pour une personne de 70 kilos, c'est environ 2,5 litres d'eau par jour. Du thé, du café, c'est bien le matin, à midi ou quand vous en avez envie, mais ça ne doit pas se boire en continu sur toute la journée, à nos yeux. Du coup, on cible vraiment les gens qui cherchent ce qu'il y a de mieux pour leur corps, et c'est pour ça que le verre est une matière inerte qui va n'échanger aucune particule nocive avec l'eau et qui va être un peu plus qualitative à ce niveau-là que l'inox, quoi, ou l'alu, ou le plastique.
Parce que le plastique, le pire, c'est que les gens, ils s'amusent à, voilà, exemple tout con, à boire du café dans des gobelets plastique, mais en fait, on mange du plastique en fait en même temps.
Ouais, alors dans tous les cas, on mange beaucoup de plastique tous les jours, mais dès que on va être sur des plastiques à faible résistance, très léger, il va se dégrader super vite. On retrouve à peu près les mêmes principes sur toutes les matières. Plus elles se dégradent vite, plus elle va échanger avec le liquide qu'on met dedans. C'est un peu le souci aujourd'hui de l'alu qui va être hyper pratique, hyper léger, sur lequel je vais conseiller une utilisation pour la randonnée, pour le sport, mais pas pour la vie de tous les jours, par exemple.
Et toi, tu as une démarche assez éthique, assez recyclée, etc. Et ça devient depuis toujours?
Alors moi, c'est assez étrange parce que je viens d'un milieu où la consommation de masse était un peu l'objectif de la vie, où les business qui ont été montés étaient autour de cette idée où il faut toujours plus consommer, il faut toujours plus de croissance. Et j'ai pas du tout été éduqué dans le recyclage, dans la seconde main. Au contraire, c'était vraiment le neuf. Toutes ces conneries, j'ai envie de dire. Mais d'un autre côté, je me souviens déjà depuis tout petit voir ces sujets autour de la couche du trou dans la couche d'ozone, de l'écologie. Enfin, on en parlait déjà petit au JT ou dans ces formats-là. Et vraiment, ça me perturbait, ça me faisait peur. Je comprenais pas trop, mais ça avait l'air grave. Et j'avais surtout l'impression qu'on pouvait pas contrôler tout ça, que ça allait nous tomber dessus. Et que c'était comme ça. Du coup, ça a été un truc qui a toujours été dans ma tête, sans vraiment pouvoir y mettre des mots dessus.
Ouais, donc tu t'es dit que tu allais changer de mode de consommation aussi.
Ouais, après, c'est vraiment. J'ai fait un passage à New York. J'étais spécialisé dans le marketing digital. Et là-bas, j'ai un peu changé d'horizon. Après avoir vu comment ça se passait, qu'on était prêt à vendre n'importe quoi à n'importe quel prix pour gagner de l'argent. Toutes les inégalités que ça pouvait créer, les fausses images, les faux messages qu'on allait passer aux gens, enfin, ça m'a un peu dégoûté. Et New York est une ville géniale, mais c'est aussi une ville où le marketing est roi, où on te met des étoiles dans les yeux à tous les coins de rue. Et ça m'a un peu dégoûté. Sorti de cette expérience, je me suis dit, ouais, si je dois monter une entreprise et gagner de l'argent, je veux qu'il y ait un impact soit social, soit environnemental. Mais en tout cas, je veux apporter un plus à la société et pas juste faire mon fric de mon côté, quoi.
Mais après, je pense que le marketing en Amérique et en France, c'est comme la différence entre la France et l'Amérique. Eux, ils exagèrent et nous, on est quand même plus soft.
Ah, c'est clair, en France, c'est beaucoup, beaucoup plus éthique, j'ai envie de dire. Mais j'avais moi en tête, quand je suis parti là-bas, j'étais dans une mentalité américaine à fond où mon seul objectif c'était gagner de l'argent le plus possible sans vraiment réfléchir aux conséquences, d'où ça pouvait venir, etc. Mais comme dit, après avoir passé un an là-bas, avoir rencontré des gens géniaux, j'ai un peu changé d'état d'esprit, quoi.
T'es redevenu français?
Je suis redevenu français carrément et ils m'ont dégoûté avec leur petit pain là.
Mais après, je pense que driver par l'argent, c'est obligatoire quand on va être entrepreneur parce que sinon on n'a pas de revenus. Ça que je regardais, moi je le cite trop dans mes podcasts, hein, mais Oussama Hamar il en parlait, c'est que les gens à vouloir faire trop éthique, et ben ils sont plus focalisés sur l'argent, donc ils font plus d'argent, donc ils font plus leur mission, donc ils gagnent, enfin, donc ça devient un cercle vicieux, quoi.
Ouais, bah alors là, t'as en général les banquiers qui viennent te rappeler assez rapidement comment ça se passe et pourquoi ça se passe comme ça, le business. Donc, faut garder les pieds sur terre, c'est sûr. On est là pour créer de la valeur et gagner de l'argent. C'est Tristan Lecomte qui disait, pour lui, une association ne peut pas être viable dans le temps si elle repose sur le financement d'autrui, si elle reçoit juste des subventions. Si on est capable de créer des modèles économiques qui vont aider et apporter une vraie solution à la planète, c'est là où ça sera le plus intelligent. Et c'est ce qu'il a fait notamment avec Pure Projet, qui est vraiment pour moi une des boîtes les plus intéressantes en France aujourd'hui, quoi.
Oui, parce que toute association a besoin d'un business model. Même des ONG, bon, les ONG encore plus. Enfin, voilà, ils font beaucoup d'éthique, etc. Mais dire, ouais, ben, je suis drivé par l'argent, c'est pas hyper grave. De toute façon, il faut un moteur.
Ouais, et tant que c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Je veux dire, aujourd'hui, sans argent, tu fais pas grand-chose. C'est important. Je veux dire, c'est important. Il faut aussi désacraliser cette idée que la personne qui veut gagner de l'argent, elle est mauvaise. Au contraire, tout dépend ce qu'il y a derrière, tout dépend ce qu'il y a dans sa tête. Et je connais pas beaucoup de personnes qui sont capables de se lever le matin sans vouloir gagner un seul euro.
En fait, autant je parle de l'échec et j'aimerais démocratiser ça, mais autant l'argent, c'est un problème en France. En fait, on s'en fout, c'est la seule valeur neutre, l'argent. C'est ça qui est bien avec l'argent.
C'est clair. En soi, moi, je pense que c'est quand même quelque chose, c'est neutre, mais ça peut quand même te faire sombrer assez rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre société, on le place très rapidement au-dessus de tout, notamment avec l'essor des réseaux sociaux, où on va te montrer une vie de rêve qui est quand même indirectement vendue comme de la sécurité et de l'argent que tous ces Instagrammeurs peuvent avoir.
Mais de base,
c'est juste un moyen. Voilà. Et c'est complètement neutre. Je suis d'accord.
C'est comment on l'utilise, etc. Et les Instagrammeurs, ils marketent leur vie.
C'est clair.
À fond, genre, c'est tellement simple, genre, de prendre un Airbnb ultra stylé à 300 balles la journée, louer une voiture. C'est tellement... En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est autant facile que ça fait peur.
Ouais, mais c'est-à-dire que c'est toujours pareil, si t'as pas le recul de comprendre ce qui se passe derrière une photo, tu vas vite te perdre. Et surtout, il faut pas confondre argent et bonheur. Et vraiment, j'ai vu des gens très riches, très malheureux, des gens beaucoup moins riches, très heureux. Et après, j'ai vu des gens très riches, très heureux aussi.
Ouais, en fait, tout existe, mais...
Mais le rapport entre argent et bonheur, pour moi, il est assez faux. C'est plus le rapport entre argent et sécurité qu'il faudrait mettre en avant.
Et sinon, toi, au niveau de l'entrepreneuriat, c'était un rêve de gosse ou t'es tombé là-dedans parce que t'avais envie de faire un truc pour toi?
Ben, très rapidement, je pense que j'ai développé une sensibilité à faire ce que j'avais envie quand j'en avais envie, tout en imaginant que l'entrepreneuriat... c'est pas trop de contraintes et beaucoup de plaisir. C'est faux.
Spoiler alert.
Non, mais je viens d'une famille où tout le monde a entrepris quasiment, enfin pas quasiment, tout le monde a entrepris, que ce soit ma mère, mon père, mon papy, mon oncle, ma tante, mes cousins. Donc vraiment, j'ai cette chance de pouvoir voir ce qui s'est passé, apprendre énormément depuis gosse. Et du coup, pour moi, c'était une obligation. Enfin, je me voyais pas faire autre chose que monter mon entreprise. À tort ou à raison, j'en sais rien. J'ai été un peu formaté dans ce sens-là, mais ça me plaît bien.
Mais c'est rare. Enfin, je pense que c'est un peu plus difficile d'entreprendre quand on n'a vu personne entreprendre dans sa famille. Je pense que ça vient moins instinctivement.
Mais tu parlais de tout ce qui était recyclé, etc., ou même d'avoir des projets plus manuels. Aujourd'hui, je vois des gens qui vont construire leur maison. Moi, je trouve ça complètement dingue d'arriver à passer autant de temps, d'avoir les compétences, c'est du boulot à fond. Moi, ça me ferait peur de me lancer là-dedans. Mais certaines de ces personnes, tu leur dis, oh, voilà, il faut monter une boîte, ils ont exactement les mêmes réactions que moi par rapport à la construction d'une maison. Je pense vraiment, c'est ce que tu as vu, ce que tu as appris, et c'est notre éducation, quoi. Donc,
ouais, ça a été inspiré aussi, parce qu'on peut croire... Ouais, on n'est pas obligé, voilà, d'être dans une famille d'entrepreneurs pour entreprendre.
Pas du tout.
Mais il faut avoir les personnes aussi qui nous inspirent, des reportages, ça peut être n'importe quoi. Genre un pote qui a créé sa boîte et tu fais, ouais, je vais la créer.
Ouais, et j'en connais un bon nombre qui avaient une dalle de fou, alors qu'ils ne venaient pas du tout de ce milieu. Et je trouve ça vraiment génial.
Ça fait quoi de travailler alors en famille ?
Bah, à la base, faut savoir que notre père, il a pas du tout voulu. Il a dit, Valentin, mon petit frère, il peut travailler pour toi, il peut te faire les designs, etc. Mais en gros, il a pas un seul pourcentage dans la boîte. Le simple fait est que si jamais ça marche pas, il a pas envie qu'on coule tous les deux. donc pour lui, il fallait qu'il y ait qu'une seule personne qui prenne les responsabilités. Forcément, je suis un peu plus âgé, j'ai fini mes études, lui il est encore en école, ça a été moi et c'était quand même mon projet à la base, mais c'est un bonheur. Après, on s'entend bien, on est potes, on a les mêmes valeurs, on n'est pas d'accord sur tout, mais chacun a sa place. Quand moi je prends une décision sur mon champ d'action, c'est ma décision et il va pouvoir apporter son avis, mais si j'ai décidé comme ça, c'est comme ça. Pareil sur tout ce qui est design, technique, production, c'est lui qui gère. Même si je suis pas d'accord sur quelque chose, il me dit ça va être comme ça, je lui dis ok. Par contre, derrière, tu as des obligations de résultat en se disant voilà, t'as fait ton choix, maintenant tu dois le tenir jusqu'au bout. Et ça, c'est génial parce que moi, ça me permet de me libérer d'un poids sur plein de choses que je maîtrise beaucoup moins que lui. Mmh. Et pareil pour lui. Lui, ça lui permet d'être vraiment dans la créativité, dans ce qu'il aime et de ne pas s'occuper de la commercialisation, quoi.
C'est toi qui t'occupes de tout ça, alors ?
Ouais. En fait, moi, à la base, j'ai monté une boîte qui s'appelle la Manufacture d'Artistes et de Projets, où on a trois grandes missions. La première, c'est l'accompagnement au niveau structurel et commercial d'artistes avec qui je travaille, que ce soit tatoueur, peintre, architecte d'intérieur ou designer. Je souhaite qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils savent faire sans s'embêter avec tout le côté administratif, vente, promotion, qu'ils maîtrisent un peu moins. C'est hyper intéressant, on se retrouve souvent, on fait des réunions, on discute, on échange, on se soutient, c'est vraiment vraiment cool. L'autre aspect de la boîte, c'est la création de projets, en général social et responsable. La gourde Ecob, c'est le premier projet qu'on a lancé, et derrière en dernier, je fais de l'accompagnement pour les boîtes au niveau marketing, commercial, etc., pour un peu plus du consulting. Mais aujourd'hui, ça, c'est vraiment à côté, et j'essaie de faire le moins possible, quoi. Enfin, j'ai pas trop le temps.
Ah, mais c'est pas ta première boîte, alors?
Si, c'est ma première boîte.
Mais non, mais là, de quoi tu parles?
Ça, c'est vraiment la boîte que j'ai montée il y a un an. Oui. C'est Manufacture d'Artistes et de Projets. Et de cette boîte découle Ecob, la gourde recyclée.
Oui, donc t'as pas eu peur de te lancer. Enfin, après, je pense qu'entre du service et un produit physique, il y a quand même un monde.
À fond. Mais moi, en fait, j'en avais marre, j'étais dans le service, j'en avais marre de vendre du vent, j'en avais marre de faire l'intermédiaire. Et je me suis posé un moment et je me suis dit, ouais, là, il faut que je fabrique quelque chose avec mes mains, j'ai envie de voir un truc sorti. Je sais pas si c'était la bonne idée, je pensais que ça allait être 1000 fois plus simple que ça de créer une bouteille. Mais hyper intéressant, hyper cool, le chemin parcouru, tout ça, ça me plaît. Et voilà quoi.
Mais c'est. Il y a plusieurs. Enfin, moi, je suis dans le free et je suis dans la prestation de service. Et moi, ça me plaît bien. Mais t'as lancé les deux en même temps, en fait, quasiment.
Ouais, j'ai tout lancé en même temps. Et avant ça, en fait, j'accompagnais les villes, les bailleurs sociaux, les promoteurs, les fonds d'investissement et les prestataires de services autour d'une offre de logement pour les personnes vieillissantes, pour leur permettre de rester le plus longtemps possible chez elles, garder un lien social et en même temps éviter l'EHPAD qui coûte souvent très très cher et qui est pas toujours le plus drôle au monde. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi et je me retrouvais entre tous ces acteurs à essayer de les mettre en relation, à essayer de faire émerger des projets. C'est pour ça que je te parle de vendre du vent, parce qu'au final, je ne faisais rien de concret à part faire rencontrer des gens. Tout ce qui est dans la prestation de services, conseil, consulting, marketing, je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que tu as des résultats plus rapidement, tu as une relation différente avec tes clients. Moi, ça a été vraiment un tremplin au bout d'un an et demi où j'adorais ce que je faisais, le concept, etc. Mais je brassais de l'air parce qu'au final je faisais rien de concret, je mettais juste des gens en relation et ça je pouvais plus quoi.
Bah donc tu vas arrêter alors?
Alors ça c'était mon ancien taf que j'ai arrêté il y a 1 an et dès que j'ai arrêté ce taf j'ai lancé ma boîte MIP
Mais
quoi.
ça, tu vas la continuer?
Ouais, MIP ça continue, c'est le feu.
Oui, j'allais dire, c'est plutôt intéressant plus comme profil que TED.
Ouais, alors moi tout de suite, j'ai toujours été, j'ai beaucoup fait de graphes, je dansais beaucoup, le monde artistique me plaît à mort, et j'ai rencontré des gens, mais tellement talentueux, beaucoup plus que moi, mais qui étaient incapables de se structurer commercialement et de pouvoir rentabiliser leur travail. C'est des super bons potes à moi en général. On a commencé à travailler ensemble, à juste réfléchir. Voilà, par exemple, un designer qui cherchait un stage, on allait réfléchir à comment on allait contacter la personne, qui est-ce qu'on allait contacter. L'autre qui voulait vendre une toile, pareil, on va mettre une stratégie en place, on va créer un storytelling, on va mettre des trucs en place ensemble, sur de la com surtout. Et du coup, c'est trop cool. Aujourd'hui, je gagne pas d'argent avec ça, hein, parce qu'ils sont tous au début de leur carrière. Et l'objectif, c'est un peu de jouer comme un agent. Mais moi, je suis prêt à donner du temps et à les aider comme je peux. Et inversement, eux vont m'aider sur tout l'aspect création de projet où ils vont pouvoir apporter leur vision, leurs idées, quoi.
Ouais, c'est un peu un cerveau collectif.
Exactement.
Mais voilà, au début, enfin, je me rends compte qu'on fait peut-être partie de ces gens où. On n'arrive pas encore à gagner vraiment, vraiment, mais on se donne et en fait c'est de la passion quoi.
Ah, c'est
Et
clair.
après ça paiera.
C'est clair, mais ce que je dis tout le temps, la dernière fois on me disait, ouais, franchement c'est courageux ce que tu fais, tu montes ta boîte, tu crées un projet qui va être responsable, un impact social, etc. Je dis, ouais, il n'y a rien de courageux, on est des chanceux de pouvoir se permettre de faire ça. On est dans un pays où l'aide à la création d'entreprise est hyper intéressante, et franchement, moi je remercie juste la France pour nous donner cette opportunité. On a de la chance. On a de la chance.
Mais il y a, à côté de mes podcasts, j'écris des articles et il y a un article là que je veux sortir et qu'il sortira. C'est le rêve français en fait. Le rêve français existe. Il n'y a pas que le rêve américain.
Ah non, enfin ouais, même je sais pas si le rêve américain fait vraiment vibrer encore beaucoup de monde en France aujourd'hui. Je vois que la conscience collective autour des enjeux écologiques et sociaux est de plus en plus grande. Moi, j'y crois à ce rêve français carrément.
Mais au moins, vous pourrez retrouver l'article qui sera déjà sorti.
Ouais.
Je veux savoir, il y a eu le Covid. T'as lancé ta campagne pendant le Covid ou après?
Après le Covid.
Si t'as pas fait peur de te dire ouf.
Bah, très honnêtement, quand j'ai vu la santé financière des différentes entreprises autour de moi, dans ma famille, ce que le Covid a provoqué, ça a été dur, dur, dur pour tout le monde, pour toute la France. Moi, au final, j'ai engagé zéro frais pendant le Covid. Donc, à part perdre du temps sur de la production parce que les usines se sont arrêtées, etc., ça m'a pas tellement impacté. Et au contraire, j'arrive assez solide après une période très très compliquée. Donc, le Covid, ça m'a pas dérangé. Enfin, ça m'a pas gêné économiquement, en tout cas, plus que ça.
T'en as profité pour travailler de ton projet à fond?
À fond, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer chez maman avec mon petit frère. Elle a été tellement gentille qu'elle nous faisait à manger, qu'elle s'occupait de tout. Donc nous, tout ce qu'on avait à faire, c'est chiller et travailler. Mais on n'avait aucune autre question en tête. Du coup, on était ultra productif. On créait des contenus super sympas. Ça marchait bien. C'est à ce moment-là qu'on a lancé un peu notre Instagram. Très vite, ça a pris plutôt bien. Donc voilà, franchement, c'était sympa. Après, tout l'aspect médical et crise sanitaire qu'on a traversé était quand même pas très drôle. Surtout qu'on était vers Mulhouse, là où il y avait un vrai cluster.
C'est ça le début des emmerdes en
Ouais,
Alsace.
putain.
Tu t'es lancé il y a 1 an. Tu penses que tu as eu ben voilà, des doutes, des difficultés?
Alors ça, je pense que la personne qui pourrait témoigner de tout ça, c'est ma copine, qui au bout d'un moment s'est dit, écoute, si c'est pour péter un câble toutes les semaines, tu vas arrêter, tu vas retrouver un travail, et là, moi, je ne supporte plus tout ça. Heureusement qu'elle était là pour m'aider et pour me soulager de toute cette frustration qui se crée quand tu lances ta boîte, quel que soit le projet, je pense. Après, c'est toujours pareil, hein. T'as les bons côtés, les mauvais côtés, tout n'est jamais tout rose, mais pour l'instant ça me plaît et je suis content de tout ce qui s'est passé.
Donc ça veut dire que tu as eu quand même des moments où tu t'es dit pourquoi je fais ça?
Ah mais tout le long, hein. Tu sais, quand tu commences, tu rencontres déjà, il y a eu des choses, mais complètement folles. C'est-à-dire qu'on est allé rencontrer toutes les usines verrières de France qu'on a contactées pour faire produire notre bouteille en France. Aucune de toutes ces usines n'a souhaité travailler avec nous. La première raison, c'est leur capacité de production. La France est le premier producteur de bouteilles en verre d'Europe. Ils sortent 19 milliards de bouteilles par an, ce qui est complètement énorme. Et moi, ils me disaient, voilà. Un run sur une machine, une demi-journée, c'est 250 000 bouteilles. Je peux pas faire moins que 250 000. Du coup, forcément, c'était beaucoup, beaucoup trop pour nous. On n'avait ni l'argent, ni la solidité au niveau du business model pour prendre tout ça en charge. Et eux-mêmes nous ont dit, on vous les vendra pas parce que ça marchera pas, vous y arriverez pas. Et ils nous ont envoyé vers l'Italie, là où ils sont spécialisés sur des petites et moyennes séries. Mais sur d'autres accessoires qu'on voulait produire en France, on nous envoyait carrément en Chine en disant, écoutez, tout ça, on ne fabrique plus, c'est trop peu de valeur ajoutée, on se fait bouffer par le marché chinois, et du coup, il y a que là-bas que vous pouvez le faire. Et ça, effectivement, quand tu te dis, moi, j'ai envie d'investir de l'argent, je mets de l'énergie pour qu'on te dise, ouais, on veut juste pas faire, c'est frustrant.
Ouais, donc tu t'es peut-être dit, c'est une idée un peu de merde, on va arrêter?
Ouais. Ouais, c'est une idée qui me coûte cher. Est-ce que le marché est vraiment là? Est-ce que les gens sont vraiment prêts à acheter une gourde en verre alors qu'aujourd'hui la mode elle est autour de l'inox? Plein de questions que tu te poses. Après, si tu abandonnes maintenant, bah, c'est encore plus de frustration, je pense. Donc autant aller jusqu'au bout et voir ce qui se passe, hein.
Non, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se rendent pas forcément compte que, ouais, il y a des échecs, il y a des difficultés. Je pense qu'on rencontre tous plein d'entrepreneurs qui storytellent leur histoire tellement positivement, en mode, ouais, c'était une aventure géniale, mais ils sont pas là à dire, ouais, mais ça a été dur, j'étais tellement dans le down. Et Thierry de Begestein, il m'avait dit la première fois qu'on s'est vu, oublie pas que tu seras dans cette phase. T'auras envie d'abandonner de tout ce que t'as déjà fait en fait.
Mais moi, le fait d'avoir grandi dans une famille d'entrepreneurs, c'est ce qu'on m'a toujours dit. C'est-à-dire que si tu montes ta boîte, à un moment, excusez-moi de l'image, mais si t'as pas la corde au cou, c'est que ça passera pas. Et c'est dans ces moments-là où t'es dans le down total, que soit ça passe, soit ça casse. Comme tu dis, en France, on a une grande peur de l'échec. Moi, j'ai été élevé avec une mentalité un peu plus américaine, où justement l'échec n'existait pas et il fallait juste se relever et repartir. Et j'ai été tellement soutenu à ce niveau-là que j'avais de la chance. Maintenant, la vie, elle n'est pas toute rose, que ce soit pour un entrepreneur, pour un salarié, pour n'importe qui. C'est jamais un long fleuve tranquille.
Il faut toujours apporter de la valeur, hein, que ce soit dans ta boîte ou en étant salarié.
C'est clair. Et je trouve qu'il n'y a pas... On a fait une grande mode de l'entrepreneuriat à vanter ses mérites. C'est cool, mais ça n'a rien de mieux que n'importe quel autre métier, n'importe quelle autre fonction. C'est juste un peu différent. Mais moi, je ne serais pas capable de dire que c'est mieux, quoi.
Non, ça, ouais, c'est effectivement une grande mode et encore plus maintenant. Genre la mode américaine qu'il faut au moins monter une start-up dans sa vie, j'ai l'impression qu'elle commence à venir en France et les gens ils se rendent pas compte que c'est compliqué. Moi je suis prestataire de service, mais je me vois pas arriver à votre niveau ou arriver à un niveau start-up alors que j'avais envie. Et en fait, faut être légitime de se dire ouais, je suis peut-être pas capable là maintenant et c'est pas grave. En fait, je veux pas même reprendre un taf de salarié si l'entrepreneuriat ça marche pas. Et en fait, c'est pas hyper grave, ou même être numéro 2 dans une boîte. C'est hyper bien. Tout au venir quand la boîte elle est lancée, d'en trouver les fonds, tu sais, au début, parce que tu vis le rêve entrepreneurial, mais à côté de ça, t'es plus pisse et t'as pas la pression que toi, par exemple, t'as eu dès le départ.
Non, mais c'est clair. Et aujourd'hui, moi, je vais être bon, je pense, dans la création d'un projet, mais dans la gestion, je pense pas être bon dans le quotidien, dans le développement, oui, dans les idées, dans tout ça, mais dans la mise en place concrète de ce qui doit se faire au quotidien, je suis pas bon. Je le sais, alors je vais progresser, mais je vais devoir m'entourer de gens spécialisés là-dedans, mais qui, eux, n'ont pas forcément envie d'avoir une vision sur le long terme, mais vraiment sur le court moyen terme. Et on est complémentaires. Je veux dire, on parle beaucoup de biodiversité dans l'environnement, mais ça marche partout. Il faut qu'il y ait tout pour faire un monde, et c'est ce qu'il y a de plus important, quoi.
Mais franchement, l'entrepreneuriat, ça t'apprendra. T'apprendras à être un bon gestionnaire, t'apprendras à plus faire les mêmes erreurs, etc. En fait, c'est un escalier.
Ouais.
Donc, t'arrives déjà en créant une bouteille, je pense que tu savais que ça ressemblait à une bouteille de verre, mais après, au-delà de ça, mais trouver un bouchon en liège et ça. Bon, ça, c'est ton frère, je pense, qui s'est occupé de...
Non, le sourcing et tout, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dessus.
Je vais faire un bouchon en liège.
Alors, c'est pas du liège, c'est le tissu, c'est un bouchon en bois, mais la housse est en tissu de liège.
Non, mais faut connecter, tu vois, faut
bien
être
sûr.
Assez...
Mais tout ça, on a cherché, hein, tu vas sur le net et tu regardes ce qui se fait, ce qui existe. Après, lui, il avait des idées très précises sur à quoi ça doit ressembler. La shape de la bouteille, elle est un peu conique, et pour lui, ça lui tenait vraiment à cœur de donner cette dimension assez élégante à la bouteille, surtout sans la housse. On a même, quand on est arrivé dans les ateliers de couture à la base, ils nous ont dit, mais attendez, faut pas mettre de housse là-dessus, elle est trop belle, brute, naturelle, sans rien. Mais bon, pour le confort au quotidien, c'est quand même plus intéressant d'avoir la housse.
Même la housse, elle permet d'avoir le fil. Enfin, le...
Ouais, alors ça, c'est aussi un truc qu'on a voulu faire, c'est de pouvoir l'utiliser comme un accessoire de mode aujourd'hui. Et du coup, la prendre en bandoulière ou autre. Là, on a montré qu'une fonction, mais on va en développer plein d'autres pour que chacun puisse l'ajuster à son besoin et qu'elle soit vraiment personnalisable.
Mais ça me fait penser, tu vois, quand je t'ai vu la mettre de côté, ça me fait penser au téléphone.
Ouais.
Tu sais, la marque Xuxu, je sais pas si
ouais,
tu
c'est ça, ouais, ouais. Pour moi, ça, c'était une vraie connerie.
Non, c'est chouchou, pardon.
Et pareil, la bandoulière, à la base, je pensais que c'était inutile, que ça allait être plus chiant qu'autre chose. Au final, aujourd'hui, je ne fais que la porter comme ça. Ça me permet de libérer de la place dans mon sac. Sur le vélo, partout, je bois facilement. Je la trimballe avec moi. Donc, ouais. Et pour le téléphone, j'avais vu ça. Et pour moi, pareil, le téléphone, je trouvais ça inutile, quoi. Je voyais les gens avec ça. Je me disais, ouais, mais t'as des poches, tu le mets dedans. Alors qu'en fait, vraiment, c'est trop pratique.
Franchement, j'ai moins peur d'avoir une gourde comme ça qu'un téléphone et qu'on me le vole, tu vois. Je suis pas en
Ah ouais.
confiance totale pour le téléphone.
Non, la gourde, normalement, on te la volera pas.
Et on te pose... ça se voit. Et on te pose des questions hein, quand tu l'as comme ça, ta gourde. On te demande un peu,
Ouais,
ouais.
à fond. Bah, alors, j'en parle même avant qu'on me pose des questions en général.
Voilà, le produit est là.
Mais non, forcément, ça attire un peu l'œil. C'est un objet sympa, un peu de design. Mon petit frère va m'en vouloir de dire ça parce que ça se dit pas.
Ça se dit pas quoi, design?
Ouais, les objets ne sont pas. En fait, quelque chose n'est pas design.
Pardon.
On s'excuse, Valentin.
Excuse-nous.
Non, mais ouais, ça attire l'œil, c'est intéressant. On me pose des questions un peu dessus, donc c'est cool. Mais j'ai hâte que les gens les aient sur eux pour vraiment avoir un max de monde touché et que le projet commence à prendre l'intérêt.
Septembre, quoi.
Septembre.
Et au niveau de votre gamme, là, vous avez plusieurs couleurs. Vous voulez faire. Voilà, la gourde en premier, c'est product market fit et après autre chose ou.
Alors je sais pas, franchement aujourd'hui on se concentre sur la bouteille, développer des nouveaux moules, d'autres tailles, etc. C'est pas du tout dans les projets. Là on essaie de réfléchir surtout à sourcer des nouveaux accessoires. On est en train d'essayer de récupérer des cordes d'escalade, de parapente, etc. pour pouvoir faire des bandoulières. On va sortir des éditions patchwork ou avec des artistes au niveau des housses en série limitée, toujours au même prix. Que la bouteille normale, mais pour un peu diversifier l'offre à ce niveau-là. Et je pense qu'on va commencer à s'intéresser à d'autres projets maintenant, que ce soit faire du mobilier ou d'autres choses, mais voilà.
Déjà voir comment ça prend ça,
Voilà.
quoi.
Moi, je pense pas vouloir développer d'autres gourdes, il n'y a pas de besoin plus que ça, et voilà.
Bah, déjà jouer sur l'accessoirisation, c'est stylé.
Ouais, ça c'est vraiment notre objectif, mais toujours pareil. En fait, on veut rester dans nos valeurs. Donc demain, si on doit mettre un accessoire dessus, il faut qu'on soit capable de sourcer quelque chose qui ne va pas avoir d'empreinte carbone trop importante, qui va pouvoir se recycler ou qui est déjà recyclé. Donc c'est un travail de fou et on veut surtout pas se précipiter, quoi.
Mais tu connais la vieille Belt, je pense,
Ouais,
c'est
de
très
ouf,
bien. C'est un peu
j'adore.
le même principe que quoi.
Ouais, alors eux,
Enfin,
pour
prendre
moi,
la matière pour faire quelque chose d'autre.
carrément, ce que je trouve encore mieux chez eux, c'est qu'ils sont capables de produire eux-mêmes et que le fondateur Hubert, il s'est déter à récupérer des pneus pour les transformer lui-même dans son atelier. Et ça, moi, je trouve extraordinaire. La valeur ajoutée qu'il y met, c'était de l'artisanat au début. Maintenant, ça commence à vraiment s'industrialiser, je trouve. Et c'est des gens, franchement, des inspirations, des modèles solides.
Il est passé ben qui va être mon associé ça. Enfin, il avait déjà fait des vidéos et après il est passé à qui va être mon associé, je pense que ça l'a un peu boosté.
Ouais, je pense que ça l'a bien boosté, mais je l'avais capté avant. Beaucoup, je traîne beaucoup sur LinkedIn. J'avais vu son activité là-dessus et j'étais vraiment tombé sous le charme. Même le gars, il est cool, il est simple. Lui, il n'est pas là pour vendre ses parents. Il fait un truc, ça te plaît pas, t'achètes pas. Mais il reste dans ses valeurs et ça, je trouve, c'est beau.
On peut dire que c'est un peu un modèle pour toi.
Ah ouais, carrément, genre moi, des gars comme ça, j'adore et c'est inspirant, quoi.
T'es jamais allé le rencontrer?
Non, pas eu l'occasion. Ils sont venus nous follow sur Insta assez rapidement en plus. Donc nous, on était hyper contents. Mais effectivement, ça fait partie des gens. J'aimerais bien les capter en vrai et juste discuter avec eux et voir. Mais ça ne saurait tarder.
Alors j'aime bien la partie là et beaucoup de. Personne n'adore, c'est. Je te pose un peu des questions un peu différentes. Quel est ton plus grand défaut?
Je suis hyper intransigeant et quand je pense avoir raison, j'ai raison.
Cette demi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Qu'est-ce que tu détestes faire dans le process entrepreneurial?
La rédaction, je suis complètement mauvais. Je suis dyslexique, je fais des fautes d'orthographe partout. Et l'administratif, les papiers, tout ça, moi, pas mon truc.
Ouais, non, mais je suis pas non plus la meilleure en orthographe, je suis pas encore dyslexique, enfin, j'ai quand même. J'en étais proche. Mais les gens qui viennent te commenter en mode ouais, non, mais il manque un S, non? Oh, c'est chiant. En France, la brigade de l'orthographe, elle est au taquet. Donc, je sais pas comment tu fais, tu te le fais relire?
Ouais, parce que même des fois je me relis et mon cerveau il bug sur des trucs.
Tu tapes sur Google?
J'envoie ça à des potes ou ma copine souvent pour qu'elle puisse relire le truc. Parce que mon petit frère, ouais, je pense que c'est encore pire que moi. Donc voilà, ou ma mère. Mais ouais. Mais si vous checkez un peu nos stories, nos posts, s'il n'y a pas une faute par poste, c'est pas normal.
Non, mais ça veut rien dire en fait. Et moi j'avais souvent peur de m'exprimer parce que je me disais, ouais, je fais des fautes.
Ah, c'est clair.
Et il y a des gens, ils viennent, des fois ça me frustre et j'ai même pas envie de sortir d'article parce qu'ils sont en mode, non, mais t'as fait une faute. Ou il y a des gens, excusez-moi, mais ils sont horribles. Ils ont un problème de venir te dire, non, mais là t'as une faute en fait. Et tu te sens tellement coupable que tu dis, enfin, moi ça m'arrête, je pense pas que toi ça
Ouais,
t'arrête.
si, carrément. Mais moi, je suis capable de m'énerver dans ces cas-là. Après, j'ai plein de gens, des potes surtout, qui viennent m'envoyer un message direct en mode, oh frérot, là, mec, t'as merdé à fond, t'as fait une faute de ouf et tout. Et je fais, oh merde,
C'est
encore une
chiant.
fois. Du coup, je supprime, je remets. Mais voilà, c'est la vie. Et par contre, j'essaie de progresser. Je lis, je fais des efforts à fond et ça paye, hein, mais je suis pas encore au max.
Attends, si on dédramatise ça et qu'on dit ouais, bah, je sais, je fais des fautes, alors arrêtez de me faire chier, je suis au courant, tout va bien, arrêtez de me le rappeler. Hein.
Mais t'as raison, parce qu'en vrai, au bout d'un moment, ça peut te freiner dans la façon de t'exprimer. Et je trouve ça assez dommage. Après, l'orthographe, c'est aussi
Ah
important. Je veux
oui.
dire, à un moment, il faut s'y intéresser. Mais bon, si quelqu'un n'est pas bon en maths, on va pas lui en vouloir.
Ouais, sauf que là, vu qu'on est des communicants,
Ouais.
ça je préfère le marketing que le community management. Moi, si on me dit un truc, je m'en fous en fait, t'as qu'à le relire. Le marketing, vas-y. Moi, je te fais une reco, s'il y a des fautes, c'est bon quoi.
De
Ça va
ouf.
pas être publié. Rien que pour toi. Est-ce qu'il y a une anecdote honteuse que t'as vécue où tu t'es dit, oh putain, j'aurais dû me cacher, j'aurais pas dû me lever ce matin. Ou...
Dans le projet,
Ouais. Un truc marrant, peut-être.
j'y ai eu beaucoup de choses. Je pense que la plus honteuse, on revient sur le même sujet, mais c'est des fautes d'orthographe que j'ai
Ah oui.
fait des fois sur des posts, notamment sur LinkedIn, où le truc il prend bien, je veux dire, beaucoup d'interactions et tu vois des fautes.
Mais tu peux le modifier.
Où tu peux modifier, mais une fois qu'il y a, je sais pas, 1000, 2000, 3000 personnes qui l'ont vu, tu te sens con et tu te dis, mais.
Moi je modifie à l'arrache, je fais non, c'est bon, c'est modifié, allez,
Ouais.
merci.
Non, mais c'est clair, je modifie direct. Mais je pense que ouais, c'est les moments les pires. Après, je pense qu'aussi, un de mes premiers rendez-vous à la banque, je me suis sorti, je me suis dit, voilà, ce matin, j'aurais pas dû me lever.
Ça, c'était horrible.
Ouais, parce que je suis arrivé avec un business model, enfin, du moins. On était tellement en galère pour trouver de quoi faire produire et on voulait tellement rester en France qu'on sortait des prix sur les objets, sur la gourde. La bancaire m'a dit, Étienne, s'arrête là, hein. C'est ce que tu me racontes, t'es sur Pluton là.
Toujours trop cher ou pas assez?
Trop cher.
80 euros la gourde.
Non mais les coûts de fabrication, c'était du 7-8 euros le bouchon, des trucs. Effectivement, mais je devais la voir, je devais aller discuter avec elle, ce qui m'a permis de changer une grande
Oui.
partie du projet, etc. Donc au final, super cool, c'est toujours pareil, hein. Faut dédramatiser tout, mais ouais, j'étais pas bien à ce moment-là.
Ouais, sur le coup, tu t'es. Mais au moins, elle t'a remis en place et tu t'es dit, bon, alors c'est de la merde, je vais
C'est
remodifier. Et...
ça.
Voilà, il y a eu quand même un avantage de
Ouais,
cette erreur.
toujours, toujours.
Faut pas itérer 1000 ans et se remettre en question et surapprendre et genre dire, bon, ok, 8 euros, ouais, si c'était en or, ça passe. Ouais, parce que non, ouais, 8 euros, ça fait une bouteille quand même à la fin.
Ouais, mais si tu savais, là, le gros souci qu'on a aujourd'hui, c'est la housse. Elle me coûte 12 fois le prix de ma bouteille. Parce qu'on veut faire du Made in France et que voilà quoi.
Ouais. Mais avec le temps, peut-être que tu arriveras à trouver.
On va essayer.
Tu vas chercher à fond.
À fond. Non, mais on cherche, et après, c'est des partenariats, c'est toujours pareil. Quand tu arrives avec un projet, toutes les usines ou les ateliers de couture, ils envoient tellement des gens qui toquent à leur porte en disant voilà, j'ai ça comme projet, j'ai ça comme projet. Ils gonflent beaucoup les prix pour voir si tu es vraiment intéressé ou si c'est juste pour tâtonner. Et ensuite, tu trouves, tu arrives à optimiser, tu arrives à trouver des solutions. Mais c'est ce qui est sympa aussi.
Et pour finir, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné? Ou que t'as lu, t'as entendu?
Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est que le temps il passe et quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, quoi que tu penses, le temps il passe. Et si t'es pas capable d'en profiter et d'apprécier chaque moment ou en tirer quelque chose de positif, eh ben tu seras jamais heureux. Et moi vraiment, c'est ça qui m'a donné envie de me lancer, de faire ce que je fais, juste pour apprécier le temps, kiffer ma vie, et le reste, on verra quoi.
Ouais, profiter quoi.
Ouais, à fond, apprécier. Parce que ça, ce qu'il y a de plus important,
Bah, c'est la seule chose en fait qu'on peut pas acheter ou
qui,
avoir.
c'est la seule unité de mesure sur laquelle on n'a aucun contrôle. C'est là, et c'est comme ça. Et c'est ce qu'il y a de magnifique aussi, parce que sinon, on ferait du retour en arrière, on ferait du surplace, on n'oserait plus avancer. Là, on n'a pas le choix.
Parce que ça serait illimité, on l'utiliserait pas à sa juste valeur.
C'est clair.
Donc voilà, le podcast est terminé. Merci Étienne d'avoir participé.
Merci à toi, c'était grave cool, merci pour l'accueil, et à bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera. Peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.